savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
Bonjour à tous et bonne rentrée. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et comme la rentrée du cinéma, c'est aussi la rentrée des festivals, nous parlerons dans cette émission de l'un des plus grands festivals du monde, Toronto, qui a ouvert ses portes ce jeudi. 10 jours de fiesta cinématographique pour son public canadien et 10 jours de dur labeur pour les professionnels. Dans cette émission réalisée en partenariat avec Unifrance et enregistrée à Paris, nous en recevons 3 et nous les remercions vivement d'avoir pris le temps, malgré un agenda ultra chargé, de venir jusqu'au studio de Tous les cinémas du monde. Serge Toubiana, en juillet dernier, vous avez été élu président d'Unifrance, l'organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'international. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Éric Toledano, votre nouvelle comédie, réalisée comme toujours avec Olivier Nakache, s'appelle Le sens de la fête. Elle sera présentée à Toronto. Ce sera le film de clôture de la section gala, si j'ai bien compris.
C'est ça, absolument.
Bonjour. Et last but not least, Éric Lagesse, vous êtes le patron de la société de vente internationale Pyramide. À Toronto, vous présentez 3 films. Wajib, de la palestinienne Anne-Marie Jassir, Une question privée des frères Taviani et Numéro 1 de Tony Marshall. Bonjour.
Absolument. Bonjour.
Alors, question à tous les 3. Est-ce que le public de Toronto est très différent de tous les autres publics festivaliers ? En prenant un spectre un peu large, on va dire d'Angoulême au Festival de Cannes. Éric Toledano.
Moi, j'ai eu une expérience sur le film précédent, Samba, qui a fait aussi une projection sur place. C'est un public plus nord-américain, donc il est d'abord plus expressif en général. C'est-à-dire quand il rit très fort et c'est assez commun à l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que c'est quand on fait une comédie, on le sent, on est au courant. En tout cas, si on avait un doute, ça se marre et ça n'a pas honte et ça n'a pas peur de se marrer. Après, est-ce que c'est un public très différent ? Il y a un public de professionnels aussi dans la salle, donc eux, ils se marrent un peu moins, toujours, ils regardent bien le travail que vous avez fait pour l'apprécier. Mais c'est assez agréable. Enfin, moi, je l'ai trouvé très agréable parce que il y a deux niveaux de simplicité, quoi, qui c'est pas, il n'y a pas trop show-off, entre guillemets, il n'y a pas trop de, c'est assez simple, les gens se baladent, il y a des salles, c'est plutôt, et puis ça fourmille, il y a énormément de monde, donc c'est une belle expérience, je ne sens pas différent, mais vous avez sûrement des gens qui ont plus d'expérience que moi autour de cette table.
Éric Lagesse.
Moi, c'est vrai que je fréquente beaucoup de ce qu'on appelle les press and industry screenings, c'est-à-dire les projections pour la presse et pour les professionnels, puisque c'est les projections, en fait, qui sont avant ou après les projections public. Donc c'est vrai, comme Éric le dit, c'est toujours un petit peu plus froid. Mais quand on va évidemment au début ou à la fin de nos projections publiques, parce qu'on accompagne le réalisateur qui va faire ce qu'on appelle les Q&A, question and answers, donc à la fin où il parle avec le public et tout, c'est un public très ouvert, c'est un public qui a pas vraiment de préjugés, c'est un public qui est très heureux de venir au cinéma, les salles sont pleines à Toronto.
Et c'est des très belles salles de cinéma.
D'abord, elles sont très très belles. Bon, ils ont changé de place depuis toutes les années où ils existent. Ils ont changé beaucoup d'emplacements, mais aujourd'hui, en effet, ce sont de très très belles salles de cinéma, grandes, le son est super, l'image est formidable. Et Toronto, c'est vraiment construit sur son public. Hein. C'est-à-dire que c'est des salles pleines depuis le début. Il y a un engouement du public pour ce festival qui est formidable.
Et avant la création d'un prix, d'une section compétitive, absolument, à Toronto, depuis le début, il y a ce fameux prix du public.
Tout à fait.
Qui est très important.
Ah ben, oui, si on a la liste, je l'ai pas en tête totalement, mais la liste des prix du public, on les retrouve souvent aux Oscars. C'est-à-dire de Slumdog Millionnaire à Le Roi...
Le Discours d'un Roi.
D'un roi, voilà, il y a, l'année dernière, je me demande si c'est pas La La Land qu'il a eu, enfin, bref,
c'est certainement La La Land.
C'est certainement La La Land. Mais il y a, en effet, il y a un prix du public qui est devenu, alors Toronto le met très très en avant, hein, ce point, prix du public, mais c'est vrai que c'est devenu un prix très important.
Serge Toubiana, je crois que ça va être votre premier festival de Toronto. Alors, qu'est-ce que vous attendez? J'imagine que vous en entendez beaucoup parler à Unifrance, là.
D'abord d'apprendre, c'est ce que j'ai dit depuis que je suis élu président, j'apprends mon rôle de président, donc là je reviens de Venise, j'ai Là, j'ai beaucoup été à Venise dans ma vie depuis presque 40 ans. Mais là, je vais à Toronto pour la première fois et c'est une grande curiosité pour moi d'accompagner les films français et les équipes, les réalisateurs, les comédiens, les distributeurs, les exportateurs. J'ai appris à rencontrer les exportateurs qui font un travail essentiel hein, dans ce métier. Des gens que j'avais jamais rencontrés tout au long de ma carrière de critique ou de directeur de cinémathèque. Là, vraiment, je sais maintenant que le cinéma français a besoin de ces exportateurs qui font le travail sur le terrain, qui connaissent le marché, qui vont vendre les films français ou les coproductions françaises. C'est très important aussi. Donc là, je vais apprendre. Donc et puis j'y vais aussi en tant que président. Donc je vais un peu me faire bizuter par les talents français, comme on dit. Mais j'espère que tout va bien se passer.
Vous pensez pouvoir voir des films parce qu'il y a énormément de... C'est une
J'aimerais
sélection
bien.
Pléthorique.
Bah, moi, j'y vais 4 jours. Donc j'ai essayé de voir... deux ou trois films. Moi, là, à Venise, j'ai vu 8 films en 4 jours et j'ai eu plein de rendez-vous. Donc, je vais le matin, je vais le soir. Bon, dans un festival, on va au cinéma, c'est clair. Mais mon travail est plus de rencontrer des distributeurs étrangers, de favoriser le développement et le rayonnement du cinéma français. C'est une tâche ambitieuse, mais voilà, d'autres l'ont fait avant moi et j'espère être à la hauteur pour y contribuer avec Isabelle Giordano qui est la directrice déléguée, qui est une fille géniale avec qui je m'entends bien. Donc voilà, les équipes d'Unifrance sont extrêmement compétentes, elles connaissent très bien le marché et Toronto. Mais moi, vous voyez, comme dans ma vie de cinéphile, Toronto n'était pas un passage.
C'est devenu un passage peut-être quand même depuis quelques années, non ?
Oui, parce que c'est le plus grand festival nord-américain, tout simplement.
Oui, il y a un petit côté qui vise sur l'Amérique quand même, qui est très... C'est comme un préambule, quoi. On sait que si on veut pénétrer le marché américain, qui est quand même le plus dur pour ceux qui font, enfin qui s'exportent en tout cas, on peut avoir du succès en Europe, on peut avoir l'Allemagne qui nous apprécie, l'Italie, l'Espagne, même l'Asie, ça arrive beaucoup. On a été au Japon beaucoup, mais l'Amérique, ça reste...
Ça
reste beaucoup de remakes quand même.
Mais justement, il y a quelques années, Libération titrait « On trouve de tout à Toronto ». Et c'est vrai que ce festival, dont certains disent d'ailleurs, ce n'est pas un festival, c'est plutôt un showcase, c'est plutôt un endroit où on découvre des films. C'est un peu comme un shopping mall, c'est-à-dire on y voit de tout. Cette année, il y aura la nouvelle comédie noire de Georges Clooney, le nouveau film d'Angelina Jolie. Dans le même temps, il y a une sélection extrêmement riche en films. Il y a des films chiliens cette année, indiens, égyptiens, le biopic de Mary Shelley, la mère de Frankenstein, si je puis dire, fait par une toute jeune cinéaste saoudienne. On pourra découvrir ce film magnifique, Wajib, d'Anne-Marie Jassir.
Oui. Donc, oui, mais ils étaient dans d'autres festivals avant. Oui. Donc,
bien sûr.
Mais... Anne-Marie Jassir, oui. Wajib, oui. Mais Mary Shelley, par exemple, qui est d'ailleurs un
film de Clooney,
pyramide,
le film de Clooney
que nous allons sortir l'année prochaine, fait sa première mondiale en gala à Toronto.
Et justement, dans cette ruche extraordinaire, est-ce que c'est facile de trouver sa place quand on est un cinéaste français ou un vendeur français?
Là, c'est pas pareil.
Moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait la réputation que c'était un peu fourre-tout à une époque. Là, je pense qu'ils sont en train de resserrer. Dès cette année, ils ont commencé à communiquer sur le fait que c'était un petit peu plus sélectif.
Ouais. 60 films de moins.
Oui, 60 films de moins. Ouais.
Mais je dirais à l'inverse. C'est-à-dire que c'est un état du cinéma mondial. Et après, quand on n'y est pas... C'est toujours moins bien que quand on y est. Voilà, c'est-à-dire c'est on se gosse pas. C'est vrai que on n'est pas à Cannes ou on n'est pas dans un grand festival, je dirais pointu. Mais à la fois quand on y est, on est quand même heureux. Et alors je dirais ça. Moi j'étais en Amérique du Nord pendant l'été. C'est beaucoup plus apprécié de ce côté-là de la planète. Moi j'ai eu beaucoup de génial. Tu vas à Toronto. Alors qu'en France c'est un petit peu anecdotique. Mais dans cette partie du monde, y être c'est important parce que c'est un peu pré-Oscar, parce que comme vous le disiez, le prix du public généralement préfigure ce qui va se passer. C'est par la suite, donc il y a un petit côté, c'est quand même pas mal d'y être.
Mais il est moins, je pense qu'il est moins médiatisé aussi, connu.
Dans la sphère européenne.
Moins connu à la sphère européenne, parce qu'en fait, il est pas compétitif. C'est vrai, vous dites, Sophie, que depuis quelques années, en effet, je crois que c'est la troisième année, ou la quatrième, je crois que la troisième.
Ils
ont créé une section plateforme. Justement, parce que on disait à Toronto, voilà, vous êtes devenu tellement gros. Parce que quand même, faut penser qu'il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, Toronto, c'était un tout petit festival qui tentait de concurrencer Montréal, son voisin, ok, qui a fini par smasher, par complètement écraser Montréal, parce qu'en fait, Toronto, tout de suite, a eu le sens du marché. C'est ça qui est très très important à dire, c'est qu'en fait ils ont compris ce que c'était qu'un acheteur, ils ont compris ce que c'était qu'un vendeur, ils ont compris comment nous faciliter la tâche à nous acheteurs et vendeurs à faire, pour faire des transactions. Ils nous ont beaucoup écoutés pour faire évoluer ce festival. Et en effet, de plus en plus d'acheteurs venaient, de plus en plus de vendeurs venaient. Et quand vous avez des acheteurs et des vendeurs, bah, vous avez du marché, évidemment. Et donc, du coup, là maintenant, ils ont pris une telle ampleur, pour des raisons qui sont peut-être un petit peu longues à expliquer, mais en tout cas, ils ont pris une énorme ampleur. C'est vrai que maintenant, c'est devenu la vitrine de l'Amérique du Nord. Du coup, à un moment donné, on leur a dit, ben voilà, nous, on vous soutient depuis très longtemps, mais nos films d'auteur, ils sont un peu noyés dans la masse maintenant. Nos petits films d'auteur, etc., qu'on essaye de lancer à Toronto. Et alors, du coup, ils ont eu cette idée de créer la section plateforme, qui est donc une compétition de 12 longs métrages à peu près.
Une douzaine à peu près.
Ouais, voilà, une douzaine. Alors là, pour le coup, de plutôt des jeunes auteurs ou des gens qui ont fait maximum 3 films, 4 films, donc qui sont pas super connus, avec un jury, pour essayer de faire en sorte que les acheteurs, par exemple, dans la masse, se disent, tiens, je vais aller voir les films de la section plateforme en priorité.
Parce qu'il faut dire que les films effectivement étrangers qui se retrouvent au même horaire que par exemple Suburbicon de George Clooney.
Ah oui, ça va être compliqué.
C'est un peu compliqué pour exister.
Sauf que ce film-là de George Clooney, par exemple, il est déjà vendu à beaucoup d'acheteurs, donc il est déjà quasiment vendu dans le monde entier. Donc soit les gens, ils vont aussi faire leur marché. Donc en effet, ils vont peut-être pas aller voir le George Clooney, ils vont le voir pour le plaisir si jamais ils n'ont rien à faire ce soir-là. Mais s'ils ont un autre film à voir en même temps qu'ils pensent être pour leur écurie, c'est-à-dire qu'ils pourraient acheter, ben, ils vont voir ce film-là. Donc c'est clair qu'on fait tous notre programme, que je le viens de faire avec la personne qui part avec moi pour faire les acquisitions, c'est quand même gigantesque, quoi. C'est un truc
C'est combien de films, à peu près, pour tout ce qu'on sait?
Si on s'écoute et si on le dit, c'est chacun 10 films par jour. Mais en fait, on peut pas voir 10 films par jour. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez qu'un film n'est pas pour vous, vous le voyez vite quand même. Vous voyez au bout d'une demi-heure, 40 minutes, donc vous allez voir un autre film qui est juste après. C'est un côté marché, c'est clair. Mais en revanche, quand vous voyez un film que vous trouvez formidable et que c'est pour vous, bah, vous laissez tomber toutes les projos qui suivent.
Tu as déjà acheté des films à Toronto?
Ah oui, moi j'ai acheté...
Par exemple.
J'ai acheté Quartet de Dustin Hoffman, par exemple, à Toronto. J'ai acheté La Saison des Femmes, un film indien, que franchement j'aurais trouvé nulle part ailleurs et que j'avais adoré et qui est un premier film d'une jeune réalisatrice indienne qui se retrouve à Toronto et quelques autres films
dont... Et t'étais en bagarre pour les acheter ou...
Le Quartet, j'étais en les deux j'étais en
oui, je pose des questions. Donc faut aller dans les premières projections alors, c'est décisif.
Ça m'est arrivé d'aller voir un film le lendemain matin en effet et on me dit ah non, la projection publique de la veille on l'a vendu et ah zut, etc. Oui, c'est comme ça.
Et oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de plateforme qui est la section en fait un peu de prestige, hein,
ouais,
Festival de Toronto,
ouais.
Mais en même temps, de quoi on se souvient, de qui a eu le prix du public?
Évidemment, surtout parce que le prix du public il marche, que le prix de plateforme ne marche pas toujours et n'est peut-être même pas sorti en France. Je sais même pas qu'il a eu.
Éric Toledano.
Je disais juste que quand vous parliez du fait de rester un quart d'heure, je me rappelle beaucoup pourquoi quand nos distributeurs à nous, quand on va quelque part, ne venaient jamais dans les projections parce qu'en fait les gens sont au téléphone, ils partent, ils se lèvent. Donc faut pas mettre les réalisateurs là-dedans parce que sinon, si vous avez un peu de névrose comme normalement dans l'ADN du réalisateur, il y en a une bonne partie. C'est juste pas très bon pour vos névroses de voir des gens se lever pendant que vous avez fait.
Mais évidemment, c'est pas bon du tout. Mais en même temps, nous, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on peut pas être puriste dans le sens où on se dit, je dois rester jusqu'au bout. Parce qu'évidemment, nous, on cherche des films, on est en concurrence avec les autres, il faut qu'on aille vite. Donc, un film dont on voit au bout de 20 minutes que c'est pas pour nous parce que c'est mal réalisé, c'est mal ci, c'est mal ça, ou ça ne convient pas à la ligne de la société, eh ben, on part et on va voir autre chose.
Mais ce que dit Eric, c'est une logique d'acheteur et de professionnel. Mais il y a la logique du public. Lui, le public, il sort pas de la salle, il reste jusqu'au bout.
Mais c'est là où je dis, à Toronto, il y a ce qu'on appelle les Press and Industry Screenings.
Ce dont tu parles, c'est des projections pour les acheteurs professionnels.
Et pour la presse.
Il y a pas de
qui a tendance, elle, d'accord, à rester jusqu'au bout quand même. Mais nous, les acheteurs, les professionnels, c'est vrai qu'on va vite. Dans le public, il y a toujours des acheteurs qui peuvent se lever et partir, mais en général, les salles, les salles publiques, les gens, ils restent jusqu'au bout. Soyons clairs, je veux dire, ils sont là pour voir le film.
Serge Toubiana, Toronto, c'est combien de films français cette année?
Je crois qu'il y a 28 films français, parmi lesquels des courts-métrages. Je crois qu'il y a presque 20 longs-métrages, ce qui est énorme. Avec la représentation du cinéma français est très, très, très imposante, si on compare à d'autres cinématographies. Donc c'est vraiment... Il y a une ambition autour de Toronto qui est indéniable. C'est-à-dire tous les professionnels y vont, les réalisateurs, les équipes, les talents, les acteurs, les actrices.
les distributeurs, les acheteurs, parce que c'est alors je sais pas si c'est la quête du Graal, mais c'est une opportunité de toucher le marché américain, enfin de le pénétrer quand on l'a pas déjà vendu à un distributeur américain. Sur les films qui seront montrés à Toronto, un grand nombre sont déjà achetés par des distributeurs américains, mais c'est justement un moyen de se revoir, de tester, de parler du marketing, de rencontrer. Il y a des masterclass, il y a des Q&A, donc de faire rencontrer les réalisateurs français et les acteurs et actrices qui accompagnent leurs films avec la presse, avec le public de Toronto. Donc, oui. Il y a vraiment, c'est un petit peu une rampe de lancement pour ces films, en espérant qu'après, ils sortent sur le territoire nord-américain avec les meilleurs atouts, ce qui est vraiment très difficile, mais c'est l'enjeu, quoi.
Alors, on peut en citer quelques-uns.
Soyons clairs, juste pour on ne pénètre pas que le territoire nord-américain. On pénètre le territoire japonais, allemand,
il y a des acheteurs du monde entier. Beaucoup plus qu'à Venise.
De la Colombie à...
Mais Venise, c'est le contraire. Venise, c'est un festival artistique.
Alors, on va citer quand même, Serge Tubiana, si vous permettez, quelques films français qui seront à Toronto cette année. Évidemment, Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Plongée de Mélanie Laurent, on va pas les citer tous, hein, tous les 28, Une saison en France de Mahamat Saleh Haroun, Kings de Denise Gamzé-Erguven, Les gardiennes de Xavier Beauvois, 120 battements par minute de Robin Campillo, Grand Prix du jury à Cannes, Le prix du succès de Teddy Lucie Modeste et Prendre le large de Gaël Morel.
Je vous pose... Et numéro 1 de Tony Marshall.
Et bien sûr, numéro 1 de Tony Marshall, pardon Éric Lajeunesse. Est-ce que Toronto, justement, c'est un bon endroit pour savoir comment les Américains nous regardent le cinéma français?
Oui, j'ai l'impression que c'est un bon laboratoire. Bien que, encore une fois, mon expérience dans les deux films qui ont vraiment, grâce aussi à Unifrance, ont pu s'exporter dans le monde, ça a toujours été vraiment, je le redis, hein, le territoire nord-américain le plus difficile, pour le coup intouchable, avait fait, je crois, 12 millions de dollars. Et finalement, voilà, au mois de mars, et d'ailleurs il sera présenté à Toronto, Harvey Weinstein a fait réaliser un remake du film avec Kevin Hart, Bryan Cranston et Nicole Kidman. Et du coup, on sait que pour le marché américain, on refait complètement. Donc, on arrive à rentrer. Ce qui est très important aussi, c'est les critiques. J'ai remarqué qu'elles paraissent à ce moment-là et qu'elles ont une vraie influence sur ce qui peut se passer.
Dans les journées professionnelles?
Oui, dans Variety, dans Screen. On a les premiers retours nord-américains sur le film. Et du coup, ça a une influence. Je dirais même, moi, je mettrais aussi l'Angleterre dedans, parce que il est aussi dur à pénétrer le marché anglais. Du coup, les Anglo-Saxons, par exemple, à ce jour, nous, on a vendu le film dans 41 pays, mais l'Angleterre et les États-Unis ne sont pas vendus. Et donc, Gaumont attend Toronto et la réaction pour voir si on va aller un petit peu plus loin.
Mais Toronto, en 2012, avec Intouchable, ça a dû être une expérience extraordinaire.
Alors, c'était pas avec Intouchable, puisqu'il l'avait pas pris, c'est avec Samba qu'on y a été. À Toronto, avec Intouchable, j'y ai pas été, donc je peux pas vous le dire. Il y avait trop de tourbillons et trop d'endroits où aller.
Mais Intouchable, il l'avait pas pris, il l'avait pas sélectionné, ou c'était le distributeur qui voulait pas le présenter à Toronto?
Je pense qu'ils l'ont projeté, mais nous, on n'y était pas, en tout cas. D'accord. Mais après, il y a tellement de sélections que je peux pas vous dire la qualité de la sélection qui était là. Je sais que, moi qui ne suis pas un expert, que cette sélection de gala est plus prestigieuse que celle qu'on a eue l'année d'avant, qui était plus perdue. Puis là, c'est la clôture, donc c'est pour ça aussi qu'on y va, parce qu'en fait, nous, on sort le film le 4 octobre, on est en pleine tournée province, donc ça, c'est pas pratique d'aller tout de suite à Toronto, mais dans les décisions qu'ont pris Gaumont et Unifrance, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on se déplace.
Et vous avez déjà
surtout
vu
le... si vous n'avez pas encore d'acheteurs.
Ouais. Bah surtout parce que, si vous voulez, les ventes ont été excellentes à Cannes, mais que nous n'avons pas les territoires nord-américains et voilà. Et puis en plus, j'ai la curiosité de voir ce qu'ils ont fait du remake d'Intouchable.
C'est ça, vous allez le découvrir.
Je vais essayer.
Toronto.
Oui, j'ai vu qu'il va être projeté, donc je vais essayer de me glisser et de voir.
Ça s'appelle comment le film ?
Ça s'appelle The Upside. Voilà, c'est le titre américain. Il y a aussi Goldshifteh Farhadi dedans. Voilà.
C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Tous les cinémas du monde ont fait une petite entracte de 3 minutes et puis on se retrouve après le flash d'info avec nos 3 invités, Serge Tubiana, Éric Toledano et Éric Lajeunesse.
Et après, qu'est-ce qui se passe alors?
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret. Sophie Torlotin.
Tous les cinémas du monde, une émission spéciale consacrée au Festival de Toronto avec nos invités Serge Toubiana d'Unifrance, l'exportateur Éric Lagesse et le cinéaste Éric Toledano qui sera à Toronto avec sa nouvelle comédie Le sens de la fête, un jour dans la vie de Jean-Pierre Bacri, patron d'une PME qui organise des mariages très chics et clés en main.
Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, hein, on partage. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions.
T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes.
On garde son calme.
Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends.
Ça ne va pas d'être vulgaire.
Et casse pas les couilles, toi.
Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception.
Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ.
La vieille, c'est ma mère, hein.
La bande-annonce du sens de la fête d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Éric, tout à l'heure, vous disiez que les Canadiens sont quand même meilleurs publics que les Français. Et puis là, il y a un petit côté altmanien dans le film qui devrait leur plaire.
Oui, c'est vrai qu'on a revu Mariage et c'est un formidable terrain de jeu, le mariage. Il y a toutes les tensions, toutes les familles qui se rencontrent, etc. On avait eu droit à des dizaines de films autour du mariage et des familles. Nous, on a choisi le point de vue de ceux qui travaillent. Et on décrit toute cette soirée à travers le regard des petites mains du mariage, de la brigade, etc. Est-ce que le public nord-américain, oui, je trouve plus expressif. Je me rappelle la première fois que j'ai été à un festival à Los Angeles, ça s'appelait Kolkoa, on avait fait une comédie et c'est vrai que j'avais entendu des rires c'était très 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 fort. En fait, c'est plus lâché comme personnalité. Mais vous savez, on a cette analyse aussi quand on fait les tournées en France. Hein, y a plein de gens qui comparent les villes. On dit Lyon, c'est un peu froid. Bordeaux, c'est comme ça. Lille. Souvent, ils mettent Lille en première date de tournée pour vous mettre bien. Il y a des publics qui sont différents. Le public nord-américain est plus expressif, mais c'est la mentalité nord-américaine qui est comme ça.
Et parfois, il y a un côté le film est perçu différemment. Je pense à Samba. Est-ce que vous avez des surprises, des réactions du public?
En général, de toute façon, dès qu'on arrive aux États-Unis dans certains pays, déjà le fait d'arriver, on est perçu de toute façon très arty. C'est-à-dire qu'on est projeté dans des endroits qui sont ouverts à des cinémas étrangers et le public en général qui accepte de lire des sous-titres aux États-Unis, il est pas monstral, hein. C'est des universités,
donc il est bienveillant a priori.
Bienveillant, en tout cas, il est curieux de quelque chose. Le public du Middle West, il regarde pas avec des sous-titres. Donc on arrive déjà dans des chapelles où on est vu comme on est déjà vu plus auteur que parfois qu'on ne l'est.
De ce que l'on considère en France.
Exactement.
Et le cinéma français à l'étranger, mais je pense que c'est vrai au Japon, c'est vrai aux États-Unis, c'est souvent un cinéma chic, pittoresque, artiste, comme vous dites, avec des vedettes connues ou pas connues. Bon, on a du mal à faire connaître les vedettes françaises, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est vrai ça prend du temps, il faut y aller, il faut jouer le jeu, il faut aller dans les campus, il faut jouer le jeu. Non, mais moi, je suis un peu de la vieille école, mais quand je vois ce que Truffaut, Godard, René ont fait dans les années 60 pour se faire connaître, c'est incroyable. Ils y ont vraiment passé du temps.
Moi, ça me choque toujours parce que j'étais indirectement aussi à Unifrance après Intouchable. Pour la commission artistique, les acteurs n'ont pas envie de voyager.
Mais oui,
moi,
ça
me rend dingue parce que pour
mais
moi,
il n'y a
rien de plus intéressant que d'aller voir d'autres publics. Mais en plus, je les trouve étroits dans leur façon de penser parce que le cinéma peut tellement avoir des possibilités de faire appel à eux et puis leur carrière, elle peut vaciller. Donc on ne sait pas. Peut-être que demain, il y a un génial réalisateur allemand ou italien qui peut penser à eux. Donc en fait, tous ces voyages permettent de rencontrer d'autres réalisateurs, rencontrer d'autres publics, l'échange culturel, il est quand même phénoménal quand on va dans un pays. Nous, on l'a fait, on est passé.
Comment vous l'expliquez ça, que les acteurs n'aiment pas?
Ben, je pense qu'ils sont frileux. En plus, si vous voulez, parfois, c'est pas grand chose, mais par exemple, l'Allemagne, qui est un territoire qui réagit bien au cinéma français, qui est pas loin, c'est pas beaucoup plus qu'une tournée province. Je veux dire, un avion, on passe 3 heures, on fait une projection, on rentre le lendemain.
Et alors, est-ce que vous avez réussi, Éric Toledano, à convaincre Jean-Pierre Bacri à faire sa valise?
Alors, Jean-Pierre Bacri, j'ai réussi à le convaincre de rien.
Il aime pas voyager. Hein.
Parce qu'il prend plus l'avion depuis longtemps. Mais j'ai déjà réussi à le convaincre de faire la tournée province. Et je pense qu'il nous a pris pour des fous.
On a pris le train, mais on a fait
4 salles ou 5 salles, si vous voulez. Et donc, quand il a découvert qu'on a fini la première et qu'il en reste 3, il nous prend pour des fous. Mais on s'amuse bien.
C'est une question importante. Moi, je vois, en tant que nouveau président d'Unifrance, que je vais avoir à convaincre beaucoup d'actrices, d'acteurs, effectivement, de jouer le jeu, y compris d'aller dans des universités, de pas être sous les feux de la rampe, parce que c'est lentement qu'on conquiert son public, ce public, le public des jeunes étudiants américains, mexicains, argentins, allemands, italiens. Si vous voient pas, si vous n'êtes pas leur parler, si vous n'êtes pas leur expliquer ce que vous faites, comment vous concevez votre art d'acteur ou de metteur en scène, il n'y a pas de raison qu'ils vous viennent voir vos films, oui.
Éric Lagesse.
Il y a du travail à faire, je crois.
Oui, moi, en tant qu'exportateur, évidemment, c'est un problème auquel j'ai été souvent confronté. Et de toute façon, ça se voit, hein, les actrices ou les acteurs qui ont voyagé, qui ont fait ces efforts-là. Je sais pas, Isabelle Huppert, elle a beaucoup voyagé, elle a une carrière internationale exceptionnelle.
Elle ne cesse de voyager.
Et oui, elle fait des choses en Corée.
Direction de Corée,
je veux dire, après c'est la carrière que les gens ont envie d'avoir, et après c'est aussi, je dirais, le travail des agences, sans vouloir rentrer dans le détail, mais il y a aussi une sensibilisation, je pense, où les agents doivent être sensibilisés à ce problème-là.
Dans le cadre de nos rencontres, on a fait des réunions avec les agents pour leur demander de mettre ça au contrat. De dire, voilà, puisque la promotion, elle est demandée aux acteurs, on a dit, pourquoi vous ne feriez pas au moins 3 villes européennes? Mais vous savez comment ça fonctionne?
Non.
C'est compliqué. C'est des mentalités, mais à un moment, je pense que...
En fait, il faut faire voyager les agents.
En tout cas, il y a d'autres phénomènes, c'est que quand on voyage en groupe, en vérité, on ne se voit pas entre réalisateurs, donc il y a une double vertu, c'est que dans les voyages, on rencontre aussi des réalisateurs français avec qui on n'a jamais le temps de parler, parce qu'on se retrouve à l'étranger avec eux, donc il y a que des avantages, mais on finira par être entendu.
Éric Lagesse, alors en parlant d'une actrice devenue une réalisatrice, dans votre escarcelle cette année, vous avez le nouveau film de Tony Marshall, oui. Numéro 1. Emmanuel De Vos est une ingénieure brillante, tout va plutôt bien pour elle, jusqu'au jour où un réseau de femmes d'influence lui propose de prendre la direction d'une entreprise du CAC 40.
Réussir dans un secteur comme le vôtre pour une femme, c'est assez remarquable. Emmanuel, si je vous dis Antea, ça vous inspire quoi?
J'ai commencé là-bas quand c'était la Compagnie Nationale des Eaux, mais j'imagine que vous le savez.
Stanislas Ribaud est très malade. Personne ne le sait, et la raison, c'est que Ribaud n'a pas préparé sa succession. Et c'est ouvert.
Prendre la tête d'Antea ?
Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40.
Comment tu peux accepter un truc pareil ?
Tu continues
à... Parce que moi, je sais que tu es fragile.
Est-ce que vous avez bien identifié votre ennemi ? Baumel n'est pas un homme de réseau parmi d'autres. C'est le meilleur.
Il faut trouver qui c'est. Et vite verrouillé.
Non mais vous voulez me faire peur.
On vous prépare.
Faut rencontrer les grands patrons de presse, sortir avec d'autres dirigeants, il faut qu'on vous voit partout.
Emmanuel Blachet, Jean Baumel, il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez.
Des compétences peut-être.
La bande-annonce de numéro 1 de Tony Marshall. Alors sur le site du Festival de Toronto, j'ai vu que le film était présenté comme un drame brillant. Sur le sexisme en entreprise, on sent qu'il y a un intérêt.
Ça peut être ça. Ça peut être ça. Oui, ça peut le définir.
Non, mais on sent qu'il y a un intérêt marqué quand même pour les films faits par des réalisatrices à Toronto. Plus que dans d'autres festivals.
Ça, je sais pas. En tout cas, nous en France, on a de brillantes réalisatrices. Moi, j'ai travaillé avec énormément de réalisatrices. Nous, à Pyramide, on sort beaucoup de films de femmes, de réalisatrices. Et je trouve qu'on a un vivier en France formidable. Après, le film de Tony Marshall, oui, c'est une histoire qui va faire ses premiers pas à l'étranger, puisque c'est en special presentation, donc à Toronto. C'est montré pour la première fois à un public étranger. Personne n'a vu ce film encore. Le film sort le 11 octobre en France. Et là, ça, c'est l'épreuve du feu, quoi. C'est de savoir comment les acheteurs vont le prendre et si eux vont aussi se sentir concernés, vont sentir qu'ils ont un public concerné, c'est-à-dire un public aussi très féminin, je pense. Parce que je pense que le film, on parle de cette, en fait, c'est le problème pour une femme brillante, en effet, d'accéder de devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40, ce qui n'est toujours pas le cas en France. On croit que c'est le cas, mais ça n'est pas le cas encore. Et le film est totalement d'actualité. Et c'est vrai que je pense, je vois pas pourquoi la France serait un pays spécialement sexiste dans le monde des affaires et pas ailleurs. Donc là, c'est passionnant ce qui va se passer à Toronto et de voir comment les acheteurs vont réagir.
Bon, vous avez beaucoup de travail là-bas, Éric Lagesse, mais est-ce que du coup, vous allez un peu essayer de saisir la température dans les salles où, par exemple, sera projeté numéro 1
ou... Oui, sans doute. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est organisés. Il y a deux personnes qui vendent pour ma société, donc il y a deux personnes féminines qui vendent et donc qui vont se coltiner les acheteurs, et moi en tant qu'acheteur aussi, puisque Pyramide vend et achète, moi je vais voir beaucoup de films à Toronto, et évidemment je serai à la fin pour ce qu'on appelle le Q&A, donc le débat avec Tony, évidemment à la fin, pour voir comment ça se passe, comment est la réaction. Mais les réactions, elles sont toujours très bonnes à Toronto du public. Moi, là, on est aussi pour avoir la réaction des professionnels, des acheteurs, qui est un petit peu plus, toujours un petit peu plus difficile.
Mais est-ce que la réaction du public peut aussi inférer sur la réaction des acheteurs?
Si vous voulez, idéalement, il faudrait mettre tous les acheteurs dans le public.
Mais ça arrive.
Ah, ça arrive. Il y a des acheteurs qui demandent en effet des billets. Mais Toronto, c'est une ruche, si vous voulez. Vous avez énormément de films à voir. Donc évidemment, le public, ça veut dire qu'il faut acheter un ticket ou qu'il faut se procurer un ticket, qu'il faut faire la queue, etc. Dans les press and industry screenings, en fait, pour les professionnels, vous rentrez avec votre badge et vous rentrez directement, et c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, en tant qu'acheteur, on privilégie tous ces projections. Alors évidemment, ce que Eric disait, ce qui est très important, c'est le retour de la presse qu'on appelle professionnelle, c'est-à-dire Variety, Hollywood Reporter pour les États-Unis, Screen qui est une publication anglaise. Et ça, c'est évident que c'est la seule base sur laquelle les acheteurs se basent, puisqu'ils n'ont rien, ils n'ont pas...
Maintenant, il y a les réseaux sociaux peut-être aussi.
Alors oui, il y a ça aussi. Il y a les journalistes, évidemment, vous avez les acheteurs, les Suédois, ils parlent aux journalistes suédois qui sont là-bas. Journaliste suédois peut l'appeler en disant « j'ai vu un film formidable ce matin, il faut absolument que tu le... » Ou alors même entre Scandinaves, ils se parlent aussi, ils se disent « ouais, bah écoute, un Norvégien va dire un Suédois, un film est super, etc. » Ou un Colombien va dire un Vénézuélien. Donc en effet, tout ça, c'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille, le buzz, etc., qui se passe lors d'un festival et qui fait que tout à coup, tout le monde ne parle plus que d'un film et tout le monde se rue pour acheter ce film.
C'est ce qui s'est passé l'an dernier pour Moonlight de Barry Jenkins.
Ah oui, ça c'est sûr, oui. Oui, moi je me rappelle, en tant qu'acheteur, du coup, Moonlight, j'ai fait la dernière projo qu'il y avait, qui était dans une petite salle, et je suis arrivé une heure. Là, j'ai annulé toutes les projos, toutes les autres projos que j'avais à faire. Je partais le lendemain, je crois le jour même, je sais plus. J'ai fait une heure de queue pour avoir ma place dans la salle et tenter d'acheter le film, d'ailleurs, que je n'ai pas réussi à acheter. Mais bon, c'est comme ça.
Il y a des guerres, des enchères sanglantes.
Ouais, c'est monté haut. Mais après, moi j'ai beaucoup aimé le film.
Elisabeth parlait de la place réservée aux réalisatrices à Toronto, et de fait c'est vrai que quand on va sur le site internet, on voit que ça s'appelle Women in the Directors Chart, avec Agnès Varda en photo, comme pour aussi peut-être se positionner. Quand on sait qu'il y a quelques années, il y a eu une grosse polémique, enfin plusieurs années de suite, sur la place réservée à Cannes pour les femmes réalisatrices.
Mais je crois que le Canada, c'est un des pays du monde en pole position sur le féminisme.
Enfin, à Cannes, Thierry Frémaux sélectionne 20 à 22 films en compétition. À Toronto, il y en a 200 et quelques. Donc c'est un petit peu plus facile d'avoir des femmes au milieu de 200 et quelques films aussi.
Je rêve d'ailleurs, féerique.
Tous les cinémas du monde ont fait une pause musicale avec une actrice qui est aussi une chanteuse, Rachida Brakni. Ici, elle chante avec Gaëtan Roussel et ça s'appelle « Je rêve d'ailleurs ».
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs safrané.
Oui, nous t'hack, on est qui? Ma ahmabi, fajna. Fajna, farhba. D'arfi, nous aïn. Je rêve d'ailleurs. Avec ton seul bagage. Des yeux pour le voyage. Yeah, Gabi. De Médine à Constantine, de Rio
Santiago, Uruaga, à Malaga, Nicosie, à Nairobi, de Mumbai, au Népal, Medellin, à Nashville, de Lisbonne, à Vérone, Bornéo, à Mexico, je rêve d'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs et d'imprévus.
Oui, n'adhak ou n'abki, ma'hbabi fajna, fajna farhba, d'arfin ou zahi.
Avec pour seul bagage tes yeux pour le voyage. Yeah, Galbi, de Médine à Constantine, de Rio à Santiago, de Ouaga à Malaga, Nicosie à Nairobi, de Mumbai au Népal, Medellin à Nashville, de Lisbonne à Vérone, Bornéo à Mexico.
Serge Toubiana, est-ce que le cinéma français s'exporte bien? 40 millions d'entrées cette année, nous dit le site d'Unifrance.
40 millions à fin
depuis
août.
Janvier.
À fin août, oui. C'est pas mal, c'est mieux que l'année dernière, c'est mieux que les deux années précédentes. Bon, on peut pas se satisfaire de ça, je crois, mais c'est très difficile, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric, c'est très difficile d'exporter les films français, pour plein de raisons, parce que on n'est pas les seuls à faire des films, et le cinéma américain domine le monde entier, la langue française n'est pas une langue facile à vendre aussi, elle est très circonscrite dans certains pays, mais en même temps, il y a des atouts. Moi, je suis persuadé qu'il y a des atouts. D'abord, c'est la diversité du cinéma français. Il y a énormément, il y a une grande variété. Je trouve que là, on est dans une bonne, dans un bon cycle. On parlait off tout à l'heure du fait qu'un grand nombre de réalisatrices font des films en France. C'est aussi un atout important. Et elles sont aimées. On parlait d'Agnès Varda. Elle va venir à Toronto. Son film sort dans je sais pas combien de pays.
Visage Village.
Et puis, son film marche très bien marché en France. Et beaucoup d'autres. Et puis, il y a quand même, moi, je pense qu'il y a toujours une carte à jouer. La carte française, c'est un peu la carte de à la fois l'originalité, la comédie, le raffinement, un peu chic. Enfin, c'est toujours les atouts qu'on a. C'est-à-dire que si on se met à imiter les Américains, on perd, à mon avis. Si on imite les Américains, on est moins bon. Et puis, ils sentent bien qu'on fait moins bien qu'eux. Et c'est pas ça qu'ils attendent de nous. Je pense aux Américains du Nord. Mais c'est vrai des Japonais. Les Japonais aiment bien le cinéma français parce qu'il est intellectuel, parce qu'il est plus libre sur le plan des sentiments et des, oui, il n'y a pas de censure. Ce qui est quand même aussi une des qualités du cinéma français. Après, c'est vraiment un travail collectif qu'Unifrance encourage et je vais m'y mettre avec beaucoup de volonté et d'enthousiasme parce que c'est vraiment un enjeu essentiel que les films français soient plus vus. Vous l'avez dit, en Allemagne, c'est le pays le plus là où on exporte le plus, je crois. L'Italie, l'Espagne, le Japon, la Corée, les ex-pays de l'Est. Bon, les marchés sont très fragiles. J'imagine que quand on vend un film en Pologne ou en Bulgarie, c'est quoi? C'est 20 000 euros, 50 000 euros maximum?
Non, 50, enfin, en tout cas les miens.
Oui, c'est ça. Non, mais
50,
j'imagine.
Peut-être le sien.
Non, mais moi. C'est souvent des petites sommes, mais
non,
c'est.
Non, mais c'est, 50 000 euros, c'est loin d'être une petite somme aujourd'hui, ouais. mais pour un exportateur de films d'auteur. Mais oui, la Pologne, c'est entre 10 et 20, quoi.
Et puis on a un autre atout. On coproduit énormément. C'est-à-dire que la France a une capacité et un sens. Je ne sais pas si c'est politique ou je pense pas d'ailleurs, mais c'est plus un goût pour la coproduction parce que voilà, tu peux en citer des exemples. On sait faire, on aime faire. Beaucoup de cinéastes étrangers viennent chercher en France. On a vu le cas de Verhoeven, quoi. Je crois que c'est le plus gros succès de l'année 2016 après Valérian.
Sur l'international,
oui. C'est Elle.
Oui, oui.
Or, Elle, c'est un film français, parlé en français, avec des acteurs français.
Produit par un français,
Saïd Ben Saïd, et avec un réalisateur étranger, hollandais, installé à Los Angeles. Donc, ça, c'est des cas très, très originaux que seule la France sait faire.
Parce que sinon, quand même, les locomotives, vous le disiez, là, en tout cas pour l'année 2017, hein, à ce jour, au début septembre, c'est Valérian.
Oui, mais il y a
de
Luc Besson,
qui est un film, certes, français.
Le sens de la fête,
qu'on attend. Voilà, mais le Valérian, il est quand même tourné en anglais. Oui. Et en général, les précédents succès
Mais on peut faire des films français en anglais. Non, mais c'est vrai.
Mais alors,
la réglementation a changé, voilà. C'est tout à fait acceptable.
Vous, Eric, tout à l'heure, vous parliez du rêve américain. Est-ce que pour vous, il y a un rêve chinois aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens quand on fait des comédies?
Il n'y a pas un rêve chinois, mais il y a effectivement un marché qu'on a vu se développer et que certains envisagent. Mais moi, je reviendrai sur la singularité du cinéma français, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on arrive avec des comédies et on nous explique que la comédie est un genre qui ne s'exporte pas parce que c'est culturel et que ça a fait appel à un humour un peu local, etc. L'année où on le fait, nous, c'est une année où c'était faste puisqu'on était entre Michel Hazanavicius et nous. Plus de 100 millions, je crois, d'entrées de cinéma français à l'étranger. Enfin, ça avait été une année incroyable. Et c'était la preuve qu'en fait, on n'est jamais là où on nous attend. C'est-à-dire que même une comédie, et il y a eu d'autres comédies qui se sont exportées, hein, même si on n'est pas des pures comédies, il y en a eu des pures comédies qui se sont exportées. Moi, je trouve que c'est la variété qui est incroyable. Quand on fait des voyages, c'est de voir que tous les cinémas français puissent avoir droit à des succès à l'étranger. C'est ça qui me fascine. Et après, sans faire du militantisme, j'ai observé qu'à chaque fois qu'on s'est déplacé, on n'avait pas les mêmes résultats que quand on s'était pas déplacé.
C'est payant.
Oui, par exemple, on parlait de la Pologne, on s'est déplacé sur Samba, on a fait près de 70 000 entrées. Bon, sur Intouchable, on a fait 700 000 entrées. Mais c'est l'Allemagne, on s'est déplacé aussi sur Samba. Encore une fois, on revenait avec les conséquences, mais on fait 400 000 entrées. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on y a été, qu'on a fait de la presse, qu'on a été à la rencontre du public, il se passe un autre phénomène. La Hollande aussi, avec laquelle on a une petite relation, et c'est pas très loin, on prend un TGV, et puis on a effectivement des bons résultats. Mais moi, je suis toujours très, très étonné et très heureux de voir la variété des cinémas qui s'exportent.
Éric Lagesse, pour vous, c'est important aussi d'avoir ce qu'on appelle des talents dans le jargon du métier, c'est-à-dire de venir avec les équipes, pas seulement les réalisateurs, mais les acteurs aussi.
Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter de ce qu'Éric a dit, évidemment. Après, je veux dire, pas parce qu'on se déplace à chaque fois que le film marche, c'est tellement bien, mais c'est clair que un film a besoin de presse, un film a besoin d'attention, un film a besoin de ressortir du lot, et si vous faites rien, si la presse ne peut pas parler du film et ne peut que faire une critique, bonne ou mauvaise, c'est évident que vous prenez moins de place. Vraiment, c'est le béaba de la distribution.
On n'en a pas parlé, mais Toronto, c'est la plateforme de lancement pour la course aux Oscars. Donc cette année, Alexander Payne, George Clooney, Darren Aronofsky. Est-ce que ça vaut aussi pour les Français? On parlait tout à l'heure de The Artist de Michel Hazanavicius.
Écoutez, ça c'est en effet... Oui, c'est évidemment, s'il y a quelque chose, un engouement formidable qui se passe autour d'un film, que le film est vendu partout et qu'il y a un distributeur extrêmement motivé, il n'y en a pas 50 des distributeurs américains qui peuvent acheter un film français, donc il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, peut-être les deux maximum, mais surtout une, et que ce distributeur est très motivé et qu'il il pense l'emmener loin, je pense que le comité qui décide du candidat idéal pour l'Oscar du meilleur film étranger côté français, le French Entry, comme on dit, ben, va être sensible aux arguments du distributeur.
La première réunion se passe le 12 septembre, donc j'y serai.
Pendant Toronto.
Le lendemain de Toronto. Moi, je rentre le 12 au matin et je
vais. Mais Eric n'aura même pas encore présenté son film à Toronto.
Donc, l'information qu'on aura des films français qui seront à Toronto et qui sont déjà achetés ou qui vont l'être par des distributeurs nord-américains. C'est vrai que c'est une information importante. Comment ils perçoivent le film, quels moyens ils vont donner au film d'exister, quelles campagnes ils vont faire pour accompagner le film auprès du public. C'est des éléments qui sont, je dis pas que c'est fondamental, mais c'est quand même, oui, c'est assez essentiel dans la décision que le comité, on est 7, je crois, dans ce comité, prendra la semaine suivante.
C'est le comité de sélection, enfin de présélection des films français pour l'Oscar.
Il y a deux réunions. Il y a une réunion de présélection et une réunion de décision. Les deux se passent à une semaine d'intervalle, le 12 septembre et je crois le 18. Oui, alors, donc c'est très rapide et il y a un enjeu important. Et c'est vrai que les critères sont pas simplement des critères subjectifs. Le film qu'on aime le plus, que j'aimerais le plus, ou qu'un Thierry Frémaux ou Alain Terzian ou je ne sais qui d'autre.
J'étais dans cette commission l'année dernière, nous avions choisi Elle, justement. À contre-courant un petit peu.
de Paul Verhoeven.
Mais qui n'a pas été sélectionné. Mais l'année d'avant, ils avaient choisi Mustang.
Mais j'étais là.
Et pour le coup, c'était passé. Donc c'est un calcul assez... Voilà, ça a été assez...
C'est très difficile.
Mais en même temps, elle était allée très 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 loin dans la course aux Oscars.
Puisque en plus, quand Isabelle Huppert a eu le Golden Globe et qu'elle a été nominée, on s'est dit qu'on n'était pas non plus complètement passé à côté d'une vraie chance, alors que les autres avaient moins de possibilités.
Et alors l'heure tourne, mais je vais vous poser une dernière question à tous les trois, la même. Si vous avez l'occasion, le temps, l'opportunité d'aller voir un film, un seul, à Toronto, ce serait lequel ?
Moi, j'irai voir le film de Tony Marshall.
Éric Toledano, Éric Lagesse.
Ça fait des merdes sur les pieds. Non, j'allais pas dire que j'allais voir le film de Tony Marshall. J'ai déjà vu, mais j'aurais pu aller voir le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Mais non, que j'ai en plus très envie de voir, mais bon, qui passera beaucoup trop tard. Je pense que je réussirai à le voir en salle en France sans problème.
Et vous,
moi, j'aimerais bien. J'ai très envie de voir aussi le film d'Éric Toledano et d'Éric Nakache aussi, mais j'ai très envie de voir un premier film qui est en compétition officielle à Venise, qui s'appelle Jusqu'à la garde, de Xavier Legrand, dont on dit beaucoup de bien.
Ouais.
Et il se trouve que j'avais donné l'avance sur recette il y a 2 ans quand je présidais la commission. Enfin, j'avais contribué avec d'autres membres de la commission. Et on dit beaucoup de bien de ce film. Voilà, c'est un premier film et j'ai vraiment hâte de le voir. Et
il est aussi sélectionné, je crois, au festival de New York.
Il est à New York, il est à Toronto, il est en compétition à Venise.
C'est film à Venise, absolument.
Oui, c'est un film dont on parle, et c'est un premier film, donc c'est vraiment...
Et merci à tous les trois, Serge Toubiana, Éric Toledano, Éric Lagesse, d'être venu nous parler du Festival de Toronto. Merci à Unifrance et tout spécialement à Sébastien Cochon. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, on reparlera du Festival de Toronto et nous recevrons aussi Michel Hazanavicius pour son nouveau film, Le